Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un récit homérique, ballotté par les vagues et le souffle du vent, imprégné par les embruns et les odeurs de gazole et de poissons morts. Une odyssée virile dans laquelle la force des bras se mêle à celle des mots et à celle des images. Pendant deux mois d'hiver, en janvier et février, ceux des tempêtes en Atlantique Nord, le documentariste Frédéric Brunkel a partagé le quotidien des marins du Joseph Roty II, le plus grand chalutier français, le dernier des grands navires à avoir emmené des hommes à Terre-Neuve. Un bateau usine qui transforme aussi en son ventre le merlan en bleu, en pâte à surimi. Il en a tiré un film de 52 minutes qui raconte le quotidien de ces véritables forçats de la mer, travailleurs volontaires loin de la terre et de leur famille, plutôt taiseux, mais porteurs d'une attachante humanité. Et après le film, voici venu le temps du livre « Homme des tempêtes » de Frédéric Brunkel, est paru chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Frédéric Brunkel.
Bonjour Jean-François.
Pourquoi un livre après le film ?
Parce qu'il est courant de dire qu'une image vaut mille mots. Et du coup, bah, j'aurais dû me taire,
bah oui,
parce qu'après avoir fait un film de 52 minutes. Mais quelques phrases bien troussées font quelques belles images et des images qui restent. Et puis un film, c'est très visuel et j'avais énormément de choses dans mon cœur. J'avais énormément de choses que j'avais ressenties dans la relation à l'océan, aux marins, même aux navires, que j'avais vraiment envie de raconter.
En plus des images, en plus du moment où vous teniez la caméra, vous preniez aussi des notes ?
Ouais, je prenais des notes. Les journées sont longues à bord et je vais pas filmer pendant deux mois non-stop. Donc j'avais des grands moments où effectivement j'avais un carnet et je racontais. Je couchais un peu ce qui s'était passé dans la journée. Et puis ça impacte la mémoire d'une façon incroyable, hein, ce genre d'expérience aussi.
Alors les mots déclenchent effectivement des images, y compris pour le lecteur, des images y compris olfactives. Moi, ce qui m'a sans doute le plus étonné, c'est vraiment très marquant, c'est le fond de l'air, c'est l'atmosphère. Et quand on tourne les pages, on le ressent vraiment. Physiquement, hein, on ressent physiquement cette atmosphère poisseuse. Nous sommes page 175.
Quand je suis arrivé, le navire sentait légèrement le gasoil, la suie de la cheminée d'échappement et la cigarette. Un folklore olfactif sympathique. Au troisième niveau des cabines, au ghetto où je dors, s'ajoutait une odeur d'humidité et celle des cols du carton moisi en décomposition. Et puis, nous nous sommes mis à pêcher. Le poisson frère ramena avec lui des parfums doucereux sucrés et iodés qui se sont additionnés aux précédents. Le jus de tripaille qui va-et-vient sous les caillebotis de l'usine poussait le mélange vers une âcreté nouvelle. Au bout de quelques jours de pêche, sur le pont et dans les recoins des parties basses de l'usine, des poissons échappés du circuit se sont mis à pourrir. Une pestilence supplémentaire s'est répandue dans les coursives basses du navire. Je m'endormais avec, me réveillais dans une atmosphère humide et maintenant nauséabonde. Les marins anesthésiés par la fumée de cigarettes voyagent ailleurs. La nicotine et le goudron rivés aux lèvres comme un vaccin contre le dégoût et la nausée.
Et il y a un mot qui est revenu extrêmement souvent sous votre plume, c'est le mot « gras ». C'est ouais. Presque les hommes du gras, les hommes des tempêtes.
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est maritime, bien sûr, mais ça se passe sous la coque. Et à l'intérieur, c'est une usine, c'est une machine, c'est... des gros treuils, des câbles gros comme le bras, des poulies énormes qu'on pourrait pas soulever si on s'y mettait tous les deux. Et donc tout ça est baigné de graisse. Donc ça, c'est la graisse industrielle. Et puis après cette graisse industrielle, il y a effectivement le gras du poisson, même si le merlan bleu est quand même un poisson plutôt sec. Et puis il y a aussi le gras de la cuisine.
Oui, alors très importante, hein, effectivement. La cuisine, on va en dire un petit mot, parce que le cuistot, c'est un sacré personnage, il a des expressions extrêmement fleuries. On a un peu l'impression que la vie à bord, eh bien, dans la vie à bord, la cuisine, le repas, c'est vraiment un point d'orgue. C'est ce qui permet peut-être aux gens de continuer réellement à avoir une vie quasi normale.
C'est essentiel parce que déjà il faut des calories pour tenir parce que on est ballotté, donc le corps compense tout le temps le roulis et ça mange énormément d'énergie. Il y a le travail, il travaille 12 heures par jour, donc c'est fatigant, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et puis c'est la Madeleine, ça rappelle la terre, ça rappelle la douceur, ça rappelle la vie, c'est le sucré, c'est vraiment roboratif la nourriture. Et dans le navire, c'est très important. Il y a 4 repas par jour. Il y a les repas, c'est en fonction des quarts. Comme les marins travaillent toutes les 6 heures, il y a un repas. Et c'est fondamental, quoi.
Vous êtes un lecteur de longue date de littérature maritime.
Oui, j'ai toujours adoré ça. Ouais.
Vous citez Anita Conti, notamment, il y a un petit côté Conrad aussi hein, dans votre livre. D'ailleurs, vous placez en épigraphe une phrase de Conrad, extraite du Miroir de la mer. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à embarquer sur ce Joseph Roty II ?
C'est une passion pour la mer, pour les marins, et une passion pour la... Moi, je fais du bateau, j'adore ça, j'adore la course à la voile, j'adore la voile, mais j'ai un énorme respect pour les travailleurs de la mer. Parce que les travailleurs de la mer, c'est des gens qu'on voit pas dans les médias, c'est des gens qui sont qu'on voit quand ils reviennent de pêche et quand ils repartent à la pêche. Les touristes adorent voir les bateaux de pêche partir. Mais ce sont des hommes qui sont des humains comme nous. Mais pour ces grands marins, ceux du Joseph Roty, sont des hommes qui vont vivre 9-10 mois par an en mer. Donc toute leur vie est à l'inverse de la nôtre. Nous, on fait des petites excursions en mer quand on aime ça, mais on vit la majeure partie de notre temps sur la terre. Et eux, ce sont des marins, c'est-à-dire qu'ils vivent en mer. Et ça leur donne une espèce de regard sur la vie, de mélancolie, de dureté, de sentiment de liberté, de goût de l'aventure, qui, moi, me touche énormément et sont des choses qui me fascinent, m'ont toujours fasciné et qu'on retrouve effectivement dans la littérature maritime.
Alors, certains vous ont raconté leur parcours, notamment pourquoi ils ont accepté de monter à bord de ce navire, pourquoi ils ont choisi ce travail de forçat de la mer. C'est quand même un sacrifice énorme parce que vous racontez que certains n'ont quasiment jamais vu de printemps.
Ouais. Ça, c'était, c'est un marin qui m'a raconté que le jour où il a pris sa retraite, il a été surpris de voir des arbres en fleurs. Parce qu'il n'avait jamais vu les pommiers de sa Normandie en fleurs. Et c'était pas une image qu'il avait dans sa tête, quoi. Nous, on a l'image du printemps, on a l'image des cerisiers en fleurs, on a l'image des arbres en fleurs, etc. C'est en ce moment, d'ailleurs. C'est très beau. Et eux, lui, c'était quelque chose qu'il n'avait pas vu, puisqu'il avait embarqué, il devait avoir 14 ans. Il avait débarqué, il avait 55 ans. Et à 14 ans, on fait peut-être pas tellement attention aux arbres en fleurs. Donc, il n'avait pas eu le sentiment d'avoir vu ça une seule fois de sa vie.
Alors, on attend, dans un premier temps. On attend que le banc de poissons soit repéré, arrive. On attend que la pêche, qu'on espère miraculeuse, intervienne. Et en attendant, eh bien, on regarde des films. Alors, vous expliquez qu'avant, on jouait aux cartes, mais on est au 21e siècle. Donc, évidemment, les choses ont un petit peu changé. On mange, on en parlait à l'instant. On boit, on dort aussi. Mais on se parle très peu, finalement. Bon. Ouais. Alors déjà, il y a la barrière de la langue.
Il y a 3 groupes à bord. Il y a les Polonais, les Portugais et les Français. Il y a 55 marins à bord. C'est distribué en 3/3. C'est parce qu'il a fallu recruter des marins avec certaines capacités et que l'armateur n'a pas dû trouver tout le monde, assez de manœuvres, assez de marins certifiés en France.
Et on se mélange assez peu.
On se mélange assez peu. Ouais, ouais. Chacun est un peu de son côté. Les Portugais restent entre eux, les Polonais et les Français. Et c'est vrai que le moment où on se croise, c'est le repas. On en parle encore. C'est encore une chose qui est fondamentale parce que le repas, c'est le moment où tout le monde se croise. Et sinon, ensuite, chacun reste dans sa cabine. C'est les cabines de 2. Il y a un petit bureau, un siège. Donc voilà, ils alternent sur le petit siège. Sinon, les marins restent allongés dans les jours de tempête toute la journée. Ils appelaient ça des moments de congé, des moments de vacances parce qu'on travaille pas ces jours-là. Mais là, quand j'y étais, c'était un peu compliqué parce que il y a eu pendant 3 semaines, on est resté à la cape face aux vagues, 3 semaines de tempête face aux vagues et 3 semaines sans travailler pour les marins. C'est-à-dire que ceux qui sont à la passerelle, qui gouvernent, et puis les mécaniciens travaillent tous les jours et le cuistot et son équipe travaillent tous les jours. Mais les marins qui font les manœuvres avec le chalutier, avec le chalut ou qui travaillent dans l'usine, n'avait pas de travail puisqu'il n'y avait pas de poisson. Et donc, c'est 3 semaines à attendre. Et on attend dans sa cabine, allongé sur sa banette, à regarder des films et des séries. C'est un confinement poussé.
Oui, un confinement poussé, effectivement. Ça a été compliqué de gagner leur confiance à ces marins, parce que vous dites vous-même, Frédéric Brunkel, ce sont des taiseux, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de s'épancher, de livrer une part de leur intimité et de leur motivation.
Non, mais ils se demandaient un peu ce que je faisais là. Au début, ils pensaient que j'étais l'ami de l'armateur, parce que si j'étais là, c'est que...
En plus, il y a la caméra, ça ne doit pas aider.
Non, je devais avoir été pistonné, en quelque sorte, pour monter à bord, puis je leur ai expliqué que non, pas du tout. Et puis après, il a fallu, comme on, vraiment on a eu une marée particulière avec, avec ces tempêtes qui se sont enchaînées, il a fallu que je trouve, c'est un équipage, donc tout le monde a une place là-dedans. Tout le monde, tout le monde sait ce qu'il a à faire.
Des tâches très précises.
Des tâches très précises, et puis même moralement, dans les rapports amicaux, dans les rapports humains, etc., tout le monde sait qui est qui, et tout le monde a sa place. C'est très, très précis, très imbriqué. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous amis du tout. Et moi, il a fallu que je trouve une place là-dedans aussi. Et donc, je me suis dit, ok, il m'accepte, voilà, je suis là, ok, il me tourne le dos quand je les filme, au début, c'était vraiment ça. Et il a fallu que je fasse, il me suis dit, il faut que je fasse équipage. Et puis, ce sont des choses, j'allais pas les aider à remonter le chalut, j'allais pas les aider à étriper le poisson. C'était pas mon rôle, et puis ça aurait été bizarre, puis je sais pas le faire. Et donc, il a fallu que je fasse équipage avec eux. Et donc, je me suis retrouvé, enfin, ce que j'ai trouvé, c'est, ce qui a marché, c'est que j'ai été un peu agent de liaison. Voilà. Je passais d'un groupe à l'autre, de la passerelle à la machine, de la machine à la cuisine, à l'usine, etc. Et puis voilà, je leur parlais, je racontais des nouvelles du bord. Enfin voilà, j'étais une espèce d'agent de liaison à bord.
Et puis coup de chance, vous avez même pendant les tempêtes, vous n'avez pas le mal de mer.
Non.
Ça c'est une chance quand même. Ça veut dire qu'ils vous regardent d'un petit peu moins haut peut-être aussi.
Je pense qu'ils s'attendaient effectivement à ce que je reste cloîtré dans mon lit, Et je l'ai pas eu, je sais pas pourquoi. C'est un coup de chance.
Coup de chance effectivement, mais bon, vous aviez un petit peu l'habitude de naviguer quand même pas dans ces conditions-là, mais ça a dû quand même vous aider un tout petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'ils acceptent ce métier, cette dureté de la vie? La raison principale, c'est quand même un petit peu l'argent quand même.
Ouais, c'est l'argent, mais au-delà de l'argent, il y a aussi le fait que ça leur confère un statut. Parce que la plupart des marins, ils ont commencé, maintenant c'est 16 ans, mais les plus anciens ont commencé à 14 ans. Et ce sont des gars qui n'ont pas fait d'études, qui ont un niveau scolaire bas, et qui, en devenant marins, ont trouvé un statut. Ce sont des grands marins. C'est-à-dire que c'est pas des marins qui partent à la journée et qui rentrent le soir. On les appelle les grands marins. Ils partent pour plusieurs mois au milieu de la mer, au milieu de l'Atlantique, au milieu des océans. Donc, quand ils reviennent et qu'ils ont bien pêché, ils reviennent avec la cale pleine et ils ont un pourcentage de la prise, un pourcentage de ce qu'il y a dans la valeur de la cale. Donc, quand ils reviennent, ils ont gagné de l'argent et ils ont un statut. Et ce qui explique pourquoi ils sont partis. Voilà, c'est parce que ils seraient restés à terre, ils auraient peut-être conduit un transpalette dans un entrepôt, ils seraient peut-être chez Amazon ou dans intérimaire. Dans l'agroalimentaire. Là, ils sont marins. Et c'est pas rien, quoi.
Et ils vivent avec une obsession, le poisson. Il faut donc repérer les bancs au radar et en ramener le plus possible. Nous sommes à la page 155 du livre.
Bientôt, les deux tas de chaînes qui lestent les câbles remontent, suivis des panneaux d'acier. Joachim attache avec une élingue ses tonnes de métal rouillé au portique arrière. Toute la ferraille est à bord, restent les 1000 mètres en textile du chalut quelque part sous l'eau. Au commencement, seules de grosses cordes sortent de l'eau et s'essorent sur l'enrouleur central. Puis d'autres cordes plus petites apparaissent, vertes, beiges et oranges. Les marins trient ces deux écheveaux dégoulinant d'eau de mer et les placent dans l'ordre exact qui permettra lors de la prochaine immersion au chalut de se déplier correctement sous les flots. Franck tire sur les filins et vérifie toutes les secondes d'un regard rapide où il place ses bottes. Les autres travaillent plus vite et le fusil du regard. Cette trame gigantesque craque et rip sur le pont. À deux reprises, les marins me dégagent de leur zone de travail. Les yeux d'un petit calamar rouge explosent sous les tonnes de pression à la surface de l'enrouleur. Les cordes sont tendues à se rompre, des vagues déferlent sur le pont et le bateau roule bord sur bord. Un bras, une jambe ou une tête pris dans l'enrouleur serait immédiatement broyée. L'eau est partout. Elle ruisselle des filins, cingle à l'horizontale sous la puissance du vent et roule à nos pieds à chaque déferlante. Alain, derrière les vitres qui surplombent le pont arrière du navire, parle avec tout son corps, un sabir composé de gestes d'excitation et de mimiques inquiètes. Les marins comprennent ces gesticulations. Sur la zone de travail, le vent lacère les oreilles, le cri des cordes martèle l'atmosphère humide de déflagration sèche, les coups de boutoir des vagues qui frappent la coque s'ajoutent comme les notes monocordes d'une guitare basse aux sons électriques des moteurs de l'enrouleur. Le chalut ressemble à une ramure d'arbres inversés, dont les branches se divisent vers les cimes. Le nombre des filets augmente à mesure que le fond du chalut approche. Les marins tirent sur les plus gros cordages orange pour les positionner à l'extérieur du tambour. Ceux de couleur verte vont à l'intérieur. Une odeur nouvelle se répand sur le pont, qui provoque autant de salivation que de dégoût. Effluves de matière sucrée d'une douce pourriture, du durian mêlé à ceux de la bonite séchée. Le parfum de la mort du poisson, celui que les oiseaux détectent à des dizaines de milles marins.
Et la pêche va être bonne, hein, Frédéric Brinkel, puisque plus de 600 000 poissons, plus de 200 tonnes vont ainsi se retrouver dans l'usine qui va tourner à plein régime, donc l'usine qui se trouve dans les cales du bateau, pour fabriquer cette fameuse pâte à surimi. C'est une manne vraiment impressionnante, mais à la mesure des risques, hein, parce que quand on descend ou quand on remonte le chalut, à tout moment, on peut être emporté par une vague en plus. Quand la tempête arrive, et ça peut durer des jours et des jours, il y a quand même un vrai risque. On se dit, pour ramener des tout petits poissons, il y a des risques absolument gigantesques.
Ouais, quand j'étais sur le pont avec eux, le pont, on appelle ça le cirque aussi. Et les marins sont tous, ont leur ciré. Alors, il y a des cirés jaunes, bien sûr, mais il y a des cirés rouges, il y a des cirés oranges, il y a des cirés vert kaki. Et ils sont trempés d'eau, et ils sont trempés de liquide qui dégouline des poissons et tout. Et donc, ils brillent. Et on appelle ça le cirque. C'est vraiment un cirque, quoi. Et y aller dans les moments de limite, de tempête, où le capitaine choisissait quand même de pêcher, il y a un vent, donc, comme il est lu dans le texte, qui siffle partout. Et c'est vrai que c'est un univers. Moi, j'adorais ça. J'essayais à chaque fois, à chaque remontée de chalut, d'être sur le pont, d'aller les filmer et de partager ça avec eux. Parce que c'est inoubliable. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, mais il y a des gens en ce moment qui sont en train, des touristes qui sont en train de manger un sandwich au surimi en descendant des Champs-Élysées, quoi.
Oui, et qui se rendent pas compte, ils pensent évidemment pas à tout
non,
ça.
Non.
Alors, la tempête dans l'Atlantique Nord, à ce moment-là, c'est quand même des vents de force 9-10, hein, en hiver, des rafales à 150 km/h, des déferlantes de 15 mètres. On est vraiment dans des conditions absolument dantesques. Comment est-ce que vous êtes senti dans la tempête, Frédéric Brinkel?
La tempête a duré 3 semaines. Il y a eu, pendant 4 jours, c'est monté à 80 nœuds. Ça fait 150 km/h avec des vagues qui sont montées jusqu'à 20 mètres. Il y avait quelque chose de fascinant à regarder cet océan complètement agité, qui déferlait avec le ciel qui changeait tout le temps parce qu'il y avait des grains noirs qui passaient, et puis après des éclaircies qui illuminaient le bateau. On voyait tous les oiseaux qui nous suivaient. Et puis, il y a un moment de fascination d'abord, de se dire, mais c'est dantesque, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, parce que des tempêtes, on peut en croiser, mais là, en plein milieu de l'Atlantique, ça prend des proportions. Et puis après, il y a la répétition. Tous les jours, tous les matins, on se lève et c'est la même chose. Et je montais à la passerelle et je regardais la météo et je voyais, non, ça va continuer. Et c'est un jeu de résistance, quoi, d'endurance, pour se dire, ok, je laisse passer la tempête. Je sais qu'après la tempête viendra le beau temps, mais ça a été très long quand même.
Ouais, et pendant la tempête, le cuistot, il fait des crêpes.
Ouais.
Incroyable,
c'est
ça.
Incroyable.
On est dans le roman, on n'est plus dans le récit.
Non, c'est un jour, il y avait une tempête, c'était à l'acmé de la tempête, et Jean-Pierre dit, bon, je vais faire des crêpes. Je pensais que c'était une boutade. Et non, il faisait des crêpes avec son adjoint, il faisait des crêpes, et tout le monde était là à manger une crêpe, et il avait sorti un pot de Nutella. Et c'était le bonheur, quoi. C'était comme à la maison, quoi.
Bon, cette expérience-là, Frédéric Brinkel, au-delà du documentariste que vous êtes, est-ce qu'elle vous a amené à regarder le monde, la vie différemment?
Quand on est en mer, quand on est au large comme ça, on considère la planète complètement différemment, quoi. Parce que on voit cette étendue, on voit cette force incroyable de l'océan qu'on peut pas maîtriser, qu'on peut pas arrêter, et ça nous replace à notre petit niveau d'être humain. Ça nous dit, mais on n'est rien, quoi. On n'est pas grand-chose. Nous, là, dans le studio, avec les micros et tout, on a l'impression d'être important, on a l'impression de parler au monde. Et puis, on se dit, mais finalement, on est toléré par la nature, mais on n'est qu'une toute petite chose sur notre terre, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, qui reste dans la tête et qui permet ensuite de relativiser les choses et finalement donner plus de confiance.
Merci beaucoup, Frédéric Brinkel.
Merci.
Homme des tempêtes, chez Grasset.
Je suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent. Si je fais que passer, emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi
bois l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme en pile espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Emmène-moi Boulevard des Airs en duo avec Ellie J, reprise extraite du nouvel album de Boulevard des Airs, Loin des Yeux, qui sort aujourd'hui.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et autour de la table cette semaine, Sophie Torlotin, Amélie Beaucourt, Fanny Blechner et Alain Pilot. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Alors Fanny, dans un instant, vous nous ferez entendre Silence. Oui, on peut entendre le silence. Silence et brouhaha.
À travers les mots de Zoé Bémont de Senneville, c'est une jeune artiste qui découvre à 25 ans qu'elle est atteinte d'autospongiose, une maladie qui se traduit par une perte de l'audition. Elle a déjà raconté son expérience dans un podcast et y revient avec beaucoup de poésie dans un livre intitulé Journal de mes oreilles.
Une BD pleine de couleurs avec vous Amélie pour illustrer les humeurs d'une ado en pleine crise existentielle.
Oui, Elle au pluriel, c'est le nom de la nouvelle série qui paraît aujourd'hui aux éditions du Lombard. C'est signé de la plume de Kit Toussaint, un habitué du genre, et de la tablette graphique d'Aveline Stockard, qui vient du cinéma d'animation, elle, et qui fait ses premiers pas dans la BD.
Et vous, Alain, vous allez nous présenter une femme mâle.
Julie Big a opté pour le pseudonyme de mâle, et cela ne lui va pas si mal.
Mais pour commencer, Alain, on va embarquer avec vous, hein, Sophie, on va embarquer dans une série de bandes dessinées, en fait. Une série qui mêle horreur, aventure et satire du monde contemporain. La série s'intitule Zombilennium et le tome 5, qui s'intitule Vendredi Noir, vient de paraître aux éditions Dupuis.
Oui, c'est une série que l'on suit depuis maintenant 13 ans. Je laisse son créateur seul aux manettes, au scénario et au dessin, vous en redire le concept, Arthur Depin.
Zombilennium est un parc d'attractions peuplé de monstres qui sont donc embauchés dans ce parc. C'est d'ailleurs un peu la raison de leur embauche, puisque ce sont des vampires, des loups-garous, des zombies qui ne pourraient pas vivre leur vie comme ça, je dirais, à l'extérieur, parce qu'à chaque fois ils se feraient chasser. Donc en fait, ce parc existe pour leur permettre d'avoir du boulot et aussi de côtoyer des gens, parce qu'évidemment, les visiteurs pensent que ce sont des faux monstres. Donc ça, c'est le principe du parc. C'est une entreprise comme une autre. Hein, voilà, il y a le patron qui est un vampire, le DRH qui est un loup-garou, le directeur syndical qui est un squelette. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que dans le tome précédent, donc le tome 3, le directeur a été remplacé par un autre vampire qui, cette fois, autorise les monstres à croquer les visiteurs.
Alors évidemment, hein, si les monstres animateurs du parc croquent les visiteurs, cela risque de poser des problèmes, vous vous en doutez Jean-François.
Ben, j'imagine, oui.
Et petite précision qui a son importance en passant, ce parc d'attractions est situé dans le nord de la France, sur l'emplacement d'une ancienne mine de charbon.
Et dans ce cinquième album, c'est un festival, hein, c'est bien pour cela d'ailleurs qu'il s'intitule Vendredi Noir.
Oui, un titre évidemment à la fois symbolique et ironique, puisqu'il fait référence au Black Friday, cette journée de consumérisme effréné, importée des États-Unis et qui voit chaque automne des gens se ruer dans les magasins ou sur Internet à la recherche de bonnes affaires.
Le nom n'est pas anodin, c'est sûr, parce que toutes les images qu'on voit effectivement du Black Friday où les gens montent les uns sur les autres pour pouvoir repartir avec leur télé ou autre chose, c'est vrai que c'est un événement qui rend les gens un peu fous. Et l'analogie entre zombies et consommation est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, qui revient souvent d'ailleurs dans les films. Je ne sais plus si dans Walking Dead ou dans Zombieland où il y a beaucoup de scènes où on voit un zombie pousser un chariot par exemple. Bon bah c'est pas anodin, c'est sûr que les Zombielenium en plus étant une entreprise de divertissement, un parc d'attractions en l'occurrence. En plus, c'est retransmis à la télé. C'est un show un peu à l'américaine. Donc voilà, j'ai voulu exploiter à fond un peu cette veine consumériste, mais en plus voyeuriste.
Et dans ce nouvel album, ce que met en scène Arthur Depin, Sophie, c'est en fait un combat entre le bien et le mal.
Oui, c'est un affrontement entre gentils monstres, si vous voulez, et horribles créatures. Il y a Gretchen, une jeune sorcière, c'est la fille du diable. Elle est arrivée dans le parc dans le premier album comme stagiaire. C'est un peu l'héroïne de la saga. Elle a pris la tête de la rébellion, donc elle est à la tête d'un petit groupe de monstres avec des démons, des squelettes, des vampires, pour contrer les visées du directeur de Zombielenium.
C'est-à-dire qu'on découvre que sous l'enfer, il y a encore un autre enfer où là, il y a plein de démons qui sont très très puissants, qui sont un peu une sorte de CAC 40 des démons. Il y en a un qui s'occupe de la guerre, il y en a un qui s'occupe des lobbies pharmaceutiques, etc. Et il y en a donc un qui est celui qui possède Zombielenium, qui s'occupe de tout ce qui est divertissement. Et en fait, ces démons vont se battre pour posséder Zombielenium, qui est une énorme manne, une énorme pompe à âme, parce qu'ils aspirent les âmes en fait des gens. Et donc le combat va se mener sur un plan évidemment de l'aventure, hein, mais aussi sur un plan entre guillemets un peu économique, c'est-à-dire que voilà, ces âmes sont une sorte de monnaie d'échange, et donc nos héros vont se battre à la fois à la surface du parc pour tenter de sauver les gens, et puis aussi essayer de sauver toutes ces âmes, y compris celles qui sont en enfer, parce qu'il y a aussi un enfer sous le parc où les individus poussent des roues, un peu comme dans les tableaux de Jérôme Bosch. C'est une vision très classique de l'enfer, mais finalement je trouvais qu'elle était toujours d'actualité.
Voilà, vision d'enfer inspirée donc par Jérôme Bosch, mais côté graphisme, côté dessin, c'est très moderne, hein. Entièrement réalisé sur ordinateur, m'avez-vous dit Sophie. D'ailleurs, on retrouvait cette esthétique dans le film éponyme Zombielenium, sorti en 2017.
Papa, je voudrais aller à Zombielenium.
Oui, c'est promis.
Je jure.
Si je mange, je vais en enfer. Allez, travaille bien.
Je peux vous aider?
Mais fais peur, c'est mon job.
Vous aviez pris rendez-vous?
Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste.
C'est mon job.
Maîtresse, est-ce que ça existe, les morts vivants ?
Voilà, un extrait de la bande-annonce du film sorti en 2017, car donc Arthur Depin a co-réalisé un film sur l'univers de sa série. Il a désormais d'autres projets en chantier, car il sait déjà qu'il arrêtera la série de bande dessinée au tome 6.
En matière de bande dessinée, alors avant peut-être de penser à faire un deuxième cycle, il y a ce qu'on appelle un spin-off ou un préquel. C'est vrai qu'on utilise, on a complètement intégré ce jargon des séries télé, qui raconterait en fait l'histoire de la création du parc. Mais ce coup-ci, le personnage serait uniquement Francis, qui est le premier des patrons, le patron sympa, on va dire, qui est un vampire. Et c'est celui qui a eu l'idée, justement, de créer ce parc pour permettre aux monstres d'avoir une sorte de refuge. Ça se passerait dans les années 70-80. En plus, qui correspond à la période de la fermeture des mines, parce que Zombielenium est une ancienne mine de charbon. Mais sinon, alors, comme autre projet, il y a aussi ce projet de série pour la télé. C'est le même producteur, en fait, que le film. Et là, autant le film racontait l'histoire d'une histoire qui se passait avant la BD, là, la série raconterait vraiment la BD.
Voilà, une série animée, peut-être un chantier, mais il faut encore trouver le diffuseur et puis les coproductions.
Et donc, en attendant, on peut retrouver les 5 albums de Zombielenium, le tome 5. Vendredi Noir vient de paraître chez Dupuis. Merci Sophie. la BD toujours, cette fois avec vous Amélie. Il s'agit là d'une nouvelle série jeunesse parue au Lombard. Alors on passe du noir à la couleur, hein, une BD vraiment toute en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'appelle Elle au pluriel, et on comprendra pourquoi assez vite. Elle met en scène une adolescente aux cheveux roses, mais pas que. Et elle aborde la guerre psychologique qui se joue dans la tête des ados.
Oui, et que les grandes personnes prennent trop souvent pour de simples sautes d'humeur, selon le scénariste Kit Toussaint. Il s'y connaît bien, lui, puisqu'il a aussi écrit la série pour ados Magic Seven.
On n'est pas assez indulgent avec les ados ou avec les enfants en général. On cherche vraiment à ce qu'ils soient qu'une seule chose, gentil, poli et serviable. Et puis le reste, voilà, on essaie de tout cacher ou en tout cas de ne pas y penser. Et dans la fiction en particulier, dans la fiction, les personnages sont ou très positifs ou très négatifs. Il n'y a pas vraiment de place à la nuance et au changement d'humeur, au changement d'avis. Généralement, les personnages doivent être cohérents, donc tout à fait gentils ou tout à fait méchants. Ici, j'ai vraiment voulu plus montrer qu'on pouvait être plusieurs choses à la fois et pas une seule, quoi. Et qu'on a le droit aux erreurs aussi, surtout.
Et pour ça, il a choisi de jouer sur la couleur des cheveux de son héroïne. Une idée qui lui est venue justement du morceau qu'on écoute depuis tout à l'heure, She's a Rainbow des Rolling Stones. Rainbow, pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, Jean-François, ça veut dire arc-en-ciel.
Merci de me le rappeler.
Ça a nourri mon imagination sans comprendre vraiment les paroles et sans chercher à comprendre les paroles non plus. C'est juste d'un coup, je me suis imaginé une fille qui était un arc-en-ciel et qui avait donc plusieurs couleurs. Et c'est, voilà, du coup, la corrélation entre les humeurs d'elle et les couleurs de cheveux, bah, elle s'est faite comme ça, en fait.
Alors, l'histoire se déroule dans un lycée, Amélie. Elle, c'est aussi le prénom du personnage. Mm-hmm. Elle, c'est la nouvelle. Elle se fait des amis, tout se passe bien. Jusqu'au jour où...
Jusqu'au jour où elle change brutalement d'attitude sans aucune raison apparente.
I'm the bad guy. Duh.
Son démon intérieur, une jeune fille aux cheveux bleus, prend les commandes de son cerveau et va décider de faire entrer en scène, au moment où elle le décidera, l'une des cinq facettes du personnage. L'ado sympathique aux cheveux roses du début disparaît pour laisser place à sa version blonde.
'Cause I'm TNT, I'm dynamite.
Une jeune fille combative, forte, agressive et un brin méprisante, plutôt pratique en cours de sport, ou à l'extrême opposé, sa version brune. Celle-ci, elle est toute timide, ultra émotive, introvertie, elle écrit des poèmes, mais elle existe aussi en version violette. Elle, c'est l'optimiste, toujours de bonne humeur, le clown de la bande qui ne rate pas une occasion de faire rire ses amis. Et enfin, la dernière version, la verte. Alors celle-là, c'est une énigme. Elle est silencieuse, fermée comme une coquille d'huître, retranchée dans son monde, mais c'est aussi celle qui est observatrice, calme, réfléchie. C'est un peu l'activation du mode pilote automatique du personnage, en fait.
Et pour dessiner tout ça, Amélie, on a fait appel à la palette très cinématographique d'Evelyn Stockard.
Oui, très cinématographique, car elle vient du monde de l'animation. Graphiquement, ça se voit tout de suite, notamment au niveau des personnages et de leurs expressions de visage.
Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était créer des univers... Créer des personnages, surtout, et m'amuser à les développer, à leur créer cette identité, à réfléchir à ce qui les construit, à comment ils vont réagir dans certaines situations. C'est ça qui me plaît, en fait, c'est étudier la psychologie des gens et de traduire ça graphiquement, en fait.
Il y a un gros travail aussi autour du mouvement. On a presque l'impression de voir bouger des personnages de dessins animés en tournant les pages.
Oui, d'ailleurs, il paraît que son smartphone est rempli de selfies et de vidéos d'elle en train de hurler, de courir dans tous les sens pour pouvoir reproduire fidèlement les poses sur la tablette.
Oui, exactement. C'est comme ça qu'elle travaille, Evelyn Stockard. Et ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien, à sa grande surprise, hein, car cet album, c'est aussi sa toute première bande dessinée.
C'est vrai que graphiquement parlant, les BD, au départ, ça ne m'attirait pas spécialement. Désolée pour le style traditionnel, classique, franco-belge. Ça m'a jamais trop attirée. Alors pourquoi ? Alors je sais pas, je crois que c'est le goût et les couleurs. Et est-ce que j'ai changé d'avis depuis ? Bah, à fond ! Parce que j'ai pu découvrir en regardant un peu plus loin que le bout de mon nez que dans la BD, y a plein de styles, il y a plein de choses qui sont possibles et il y en a des magnifiques. De manière très personnelle, j'ai pris énormément de plaisir à dessiner pour la BD, pour créer cette histoire ce cinéma sur papier, quoi.
Et c'est pas la dernière fois qu'on la verra dessiner pour la BD, Amélie, puisque l'intrigue de la série a une suite qui va s'étaler sur combien de tomes, d'ailleurs ?
J'aurais été tentée de vous répondre 5, hein, comme les 5 facettes de la jeune fille.
Oh là, c'est une belle suggestion que vous me faites. 5 tomes pour elle, ça aurait été une bonne idée, ouais. J'y ai pas pensé avant, donc merci de la suggestion un peu tardive, fallait me le dire avant. Donc non, il y en aura que 3, je suis désolé. J'avais une histoire complète en tête, mais je pense que comme il y a une réponse et une résolution finale, je pouvais pas faire traîner non plus l'intrigue trop longtemps, donc ce sera 3 tomes malheureusement.
Voilà, donc c'est dommage, 3 tomes, mais en tout cas il faudra attendre l'année prochaine pour avoir le suivant entre les mains.
Elle, d'Evelyne Stockard, et Quitte Toussaint, paru aujourd'hui aux éditions du Lombard. Merci Amélie. Quelques notes de Ludwig van Beethoven à présent dans le Café Grand de VMDN. Et si vous nous en faites écouter un extrait, Fanny, c'est parce qu'il y a un lien, bien sûr, avec le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, le compositeur a perdu Louis petit à petit. Une perte à laquelle est également confrontée Zoé Bémond de Senneville. Elle a 25 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est atteinte d'autospongiose. C'est une maladie qui touche un os de l'oreille et qui empêche d'entendre correctement. La seule solution, outre l'opération dans certains cas, c'est de porter des appareils auditifs. Des appareils difficiles à supporter et à régler. Écoutez cet extrait du livre Journal de mes oreilles.
Pas trop par-ci, pas trop par-là. Alors là, désolé, mais comme ça, ma voix, c'est un robot. Ça ne va pas le faire du tout. L'écho, là, on en reparle. Oui, mais mademoiselle, vous avez une intolérance au bruit qui est élevée, en plus de votre perte auditive. On appelle ça de la colère, non ?
Et cette colère, justement, Jean-François, elle est très présente dans le livre.
La colère, c'est une réaction à l'impuissance. Quelqu'un qui est malentendant, il n'est pas du tout adapté au monde social. Il y a vraiment le monde des entendants, et puis après, le monde des sourds de l'autre côté. Mais pour quelqu'un qui est entre les deux, et qui en plus comprend pas tout, c'est hyper violent. Donc effectivement, moi, j'étais très en colère, mais j'ai pas laissé tout de suite ma colère prendre sa place. C'est pour ça qu'elle a été d'autant plus forte après.
Et alors, comment est-ce qu'elle a réagi après l'annonce de cette maladie et face aux difficultés de l'appareillage ?
Elle décide de ne pas se cantonner à la médecine traditionnelle pour trouver des solutions. Elle va voir une nutritionniste, des kinésiologues et s'intéresse aussi à la psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie, c'est une pratique selon laquelle ceux qu'ont vécu nos ancêtres, plus ou moins lointains, peut avoir des conséquences sur nous, sachant qu'a priori, l'autospongiose est une maladie héréditaire.
Vu que j'ai pas trouvé de souffle, de réconfort, de solution, enfin pas grand chose en fait, dans la médecine considérée comme normale, je me suis vraiment tournée vers la médecine alternative. C'est un thème qui m'intéressait au départ parce que j'ai une famille avec beaucoup de mélange, avec pas mal de silence. En lisant des livres de psychogénéalogie, on découvre des histoires où la personne va trouver un truc, elle va en prendre conscience, puis pouf, le truc va se dilapider. Bon, c'est pas ce qui s'est passé pour moi.
Bon, et elle peut espérer en guérir, Fanny ?
Alors la question reste en suspens. A priori, les médecins lui disent que non.
Je bataille un peu entre ces deux choses-là. Entre le fait de vouloir guérir, donc récupérer mes capacités auditives, et le fait que la perte auditive est un chemin vers une guérison beaucoup plus profonde, parce qu'elle m'apprend à m'écouter, par exemple, à m'aimer, à être en lien d'une façon beaucoup plus profonde avec les gens, peut-être.
Et comment elle a décidé d'évoquer son histoire ?
Alors, Zoé Bémond de Senneville, elle est artiste, poétesse, comédienne et modèle. Si la situation actuelle est très compliquée pour les personnes malentendantes qui ne peuvent pas lire sur les lèvres avec les masques, au printemps dernier, elle a été confrontée, comme nous tous, au confinement, une parenthèse silencieuse de laquelle elle a profité pour s'adresser à ses proches.
Je me suis acheté un micro parce que c'était le confinement et que je travaillais un tout petit peu en voix off. J'ai commencé à enregistrer mes poèmes parce que j'aimais bien le son de ma voix. Et puis je me suis fait une petite chaîne SoundCloud où j'ai enregistré quelques poèmes, etc. Quand ce texte a jailli, j'ai commencé à le lire à voix haute et à l'enregistrer parce que c'est une façon que j'ai, moi, de tester mes textes. Et après, j'ai tout de suite voulu le partager parce que je sentais que j'en avais besoin.
Et avant d'être un livre, c'est devenu d'abord, Fanny, un podcast.
Oui, un podcast en 11 épisodes qui a eu un certain succès. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui souffre d'une perte d'audition, c'est que l'écriture même de l'autrice est très sonore.
Peut-être que je compense, du coup. Je compense parce que j'ai besoin, du coup, d'appui pour vraiment entendre. En tous les cas, moi, ce qui me drive, c'est le rythme. C'est vraiment un tambour ou plutôt un cheval qui galope, c'est plus ça mon truc. Mais pour moi, c'est aussi vraiment coloré. Souvent, quand j'écris plutôt de la poésie, j'ai l'impression que je peins, que je dessine.
Un exemple de cette poésie, c'est la façon, par exemple, qu'elle a de s'adresser à sa maladie, qu'elle surnomme Otto.
Otto, mon amour, Otto, oui, mon amour. La cohabitation est difficile, c'est vrai. Il y a une fusion amour-haine. Comment pallier à ta force invisible ? Tu es si présent, je ne te vois pas, je ne peux rien te faire. Tu es plus fort que tout, Otto. Tu t'es mis à habiter tout moi et tout chez moi. À être présent dans tout ce que je fais, dans chacun de mes projets. C'est gentil, oui, très gentil, Otto, de tant te préoccuper, de t'investir, mais je pense que là, c'est excessif.
Et elle explique comment lui est venue cette image.
J'avais une copine qui m'avait demandé alors et tes amours, et j'avais répondu en rigolant, je vis avec Otto. Et Otto, effectivement, il est là et... Je peux rien faire. Enfin, concrètement, quand je suis tombée malade et que j'ai commencé le diagnostic, les appareils et tout ça, les 2 années que j'ai passées ont été. J'avais pas le temps parce que j'étais trop fatiguée. J'avais l'impression d'être. J'avais pas de vie sociale, quoi.
Et finalement, elle va faire de cette maladie une alliée.
Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'elle explique dans la deuxième partie du livre. La première étant donc la retranscription du podcast.
J'avais envie de raconter à quel moment de ma vie cette épreuve était arrivée. Et comment je le voyais, comment je le percevais, et finalement, quel cadeau c'était.
Elle y évoque par exemple une résidence artistique à Caen, mais il parle aussi spiritualité, car l'oreille, il faut le dire, c'est tout un symbole. J'aime d'ailleurs beaucoup la préface d'Estelle Meyer, je vous en lis les premiers mots. Mmh. L'oreille, c'est pour moi un coquillage qui entend le vent et la mer, cela ressemble à un embryon sculpté à même la peau, préfigurant les générations à venir, délicat, déposé, comme un enfant qui écouterait le présent avant de s'incarner, qui dort et respire les mots qu'on lui confie.
La préface donc du livre Journal de mes oreilles, signé Zoé Bémond de Senneville, publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Fanny. Mal, qui est ici le pseudo de cette chanteuse française que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui, alors.
Julie Big, alias Mal, auteur, compositeur, interprète qui adore la pizza, Jean-François, ouais. Et est présentée par l'argumentaire qui accompagne son disque 6 titres comme une artiste de pop galante, définition.
Pop galante aujourd'hui, moi je dirais plutôt pop intimiste et sincère que pop galante aujourd'hui, avec le recul. Mais c'est une pop un peu raffinée et féminine.
Il y a à un moment de la pop, non pas galante, mais de la pop britannique dans la musique de Mal, celle de Depeche Mode. Était-ce conscient ?
J'aime beaucoup. Quand je m'amuse à composer aussi en dehors de Mal, j'aime beaucoup partir sur de la new wave, chanter en anglais. J'ai vraiment une affinité avec ça. De pouvoir coller un peu ce style new wave à de la pop chanson française, je me dis que c'est un bon pari, quoi. Balayer.
La Sauvage sur RFI dans VMDN, Mal, alors d'où vient ce nom de scène ?
Il est venu assez naturellement, Jean-François, quand Julie a regardé le projet en face. Une femme seule sur scène, féminine, qui parle majoritairement de sentiments, de rencontres, de désirs charnels. Mal était le total contre-pied, esthétiquement le mot lui plaisait également. Mal, ravi de se retrouver aux Inouïs du Printemps de Bourges, cette pépinière de jeunes talents.
Je suis très contente de faire partie des Inouïs du Printemps de Bourges. En plus, je suis la seule femme dans une sélection de 5 artistes. On est 5 projets solo, il n'y a que des hommes. Et la seule femme, elle s'appelle Mal. Alors là, c'est encore plus drôle. Et j'aimerais bien que ça marche. Parce que ouais, c'est majoritairement des hommes. Alors je n'ai rien contre les hommes, bien évidemment. J'aimerais bien que le projet prenne de la hauteur.
Avec ces 6 chansons qu'elle fera notamment découvrir au public de Bourges, que souhaitait dire Mal ?
J'avais envie d'être sincère dans ma manière de dire les choses et aussi de faire de la musique. C'est-à-dire que on arrive à entendre plusieurs styles de musique, la chanson, de la pop, un peu d'électro, un peu style années 80. Et j'avais envie d'arriver à mettre tout ce que j'aime en musique et tout ce que j'avais envie de dire et que ça fasse pas trop incohérent. J'ai réussi à faire quelque chose, je pense, qui me ressemble dans cette EP.
On dirait que j'ai 16 ans, je bafouille quand je parle, tu te fous bien de moi, de mon côté sentimental. Mais je veux pas m'en faire,
Même si je sais que nous deux, c'est voué à se défaire, mais je veux pas.
Mal, je veux pas m'en faire.
Mais s'en fait-elle pour ce qui va devenir de ses compositions? Ce post sur sa page nous a conduit à cette question. C'est parti, ma chanson a définitivement quitté le studio, le nid, pour désormais vous appartenir si vous le souhaitez. Alors comment Mal vit-elle le lâcher d'une chanson?
C'est excitant et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a peur que ça plaise pas. Et on se dit, maintenant quoi? Maintenant quoi? Il faut continuer d'écrire. En ce moment, l'inspiration, elle est pas tout le temps là parce que c'est, on n'a plus vraiment de vie sociale, en tout cas. Moi, j'ai besoin de ça, du corps à corps pour écrire des chansons. Donc ça manque, mais c'est super. Là, on a quand même sorti tous ces titres malgré le confinement parce qu'il fallait que ça sorte. Ça sert à rien que ça reste dans les tiroirs. J'avais envie de les partager.
Avant de les lâcher, il faut agencer ces titres. De quelle manière s'y est-elle prise?
C'est pas du tout un fil rouge. Les chansons ont pas du tout été écrites en réponse à une autre. C'était vraiment, comme je le répète à chaque fois, c'est du brut de décoffrage. Il fallait que ça sorte. Et elles ont réussi à trouver leur place quand même les unes par rapport aux autres. Qu'il y en ait une plus aérienne, une plus brute, sans arrangement. Elles ont bien répondu à chacun de mes sentiments à ce moment-là. Et je trouve qu'elles se répondent bien les unes les autres dans le EP.
Situation compliquée, je regarde autour de moi, je perds ce qui avait pour but avant d'être juste un repère. Mon corps flanche et glisse, une piste noire fait chavirer mes vis et bousille mon radar.
Demain, Mal, alors qui l'inspire là?
France Gall, PJ Harvey, Shannon White ou encore Bachung, et qu'est-ce qui la touche chez eux?
Leur brutalité souple et pure, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y a un côté brutal mais ouais, doux. Il y a une sensibilité très forte. J'aime beaucoup les caractères comme ça.
Et qu'est-ce qu'elle fait en dehors de la musique?
Alors Mal, Jean-François, dessine, fait de la sérigraphie et de la céramique. Quel point commun avec la musique?
La création, pouvoir sortir des émotions sur un support, un médium, que ce soit le dessin, voilà, la céramique. Alors la céramique, c'est un peu plus du lâcher-prise, on réfléchit moins. Je suis une passionnée et j'ai envie de créer avec plein de médiums différents. Et des fois, j'ai du mal à choisir et j'ai l'impression de m'éparpiller un peu.
Et enfin, quelle place pense-t-elle avoir au sein du paysage musical français où elle vient de faire son entrée?
Ah, bah elle est toute petite, ma place dans le paysage musical français. Je ne suis personne dans le paysage musical français. J'ai une petite place, elle est toute nouvelle. Elle est floue aussi avec l'actualité. Je pense que je ne l'ai pas volée, en tout cas.
Alors, pour quitter Mal, l'un des premiers morceaux qu'elle a écrit?
Oui, il représente le premier pas, le fait de repartir de zéro et d'en avoir la force. Mal y est attaché, le connaît très bien, comme un bon compagnon de route, un animal de compagnie. Le message ici est purement personnel, mais elle imagine que cela puisse parler à d'autres, car c'est l'idée de se relever d'une situation difficile, après un coup dur, et d'oublier un peu l'empathie que l'on risque d'avoir dans ces moments-là. Penser à soi, c'est bien aussi. Elle voulait se relever avec élégance d'un coup dur, envoyer valser les bons sentiments et devenir maître de son sort. Notez qu'avant d'avoir tous ces arrangements qui lui vont si bien, c'est d'abord quelques accords sur un piano. Une histoire spontanée entre deux petites notes et elle, et ça s'intitule « Tennis revers ».
Tennis revers, Mal, extrait de son nouveau mini-album. Merci Alain, merci également à Fanny, Sophie et Amélie. Dans un instant, le journal à lundi avec Youssoupha pour son nouvel album Neptune Terminus. Et vous m'en direz des nouvelles.